Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Bien entendu, l'évolution des espèces se réalise à coup de ces petits changements de ses couleurs et de ses formes. Le loup gris ne se contente pas d'être un loup. Il visite l'Arctique et devient le loup blanc, le loup arctique. Les traits des espèces évoluent. Cela méritait bien que nous évoquions l'un des aspects majeurs de l'écologie évolutive, le déplacement des caractères. Car qu'est-ce qui fait qu'une espèce change, qu'une espèce évolue ? Ce sont ces changements, ces modifications de quelques caractères qui vont donner à chaque espèce une forme nouvelle, une spécificité. La biologie évolutive a longtemps présenté un caractère panglossien, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Si les canards avaient des pattes palmées, c'était pour mieux nager. Et les taupes avaient perdu leur acuité visuelle parce qu'elles n'en avaient plus besoin. Dans cette recherche finaliste d'une téléologie implacable, chacun devinait que la morphologie du nez était faite pour porter des lunettes. En fait, toute morphologie était considérée comme une adaptation dont on rendait compte à l'envers. Puisqu'elle était là, c'était qu'elle avait forcément un rôle, une fonction. Mais les études ont peu à peu nuancé ces propos conquérants, et de nombreuses exceptions sont apparues. Certes, la morphologie, la couleur et les traits comportementaux s'avèrent efficaces dans un environnement donné, mais la plupart des recherches montraient que les espèces n'évoluaient pas seules. Même si les polémiques ont cru taire définitivement les arguments contre le dieu Darwin, ces débats ont servi à quelque chose. L'étude des phénomènes évolutifs a été reconnue comme une science historique. Un caractère biologique dérive de l'expression d'une hérédité. Ce sont des gènes qui changent, des séquences entières qui s'expriment dans les corps, les morphologies, les couleurs. Et justement, ces caractères changent. On nomme cela le déplacement ou le relâchement de caractères. Mais sait-on que ces modifications résultent bien souvent de la simple présence des autres ? Les autres espèces agissent sur chacune d'entre elles simplement en existant. L'écologie évolutive nous démontre combien chaque espèce est interdépendante des autres. Bien plus encore, c'est la présence des autres espèces qui entraîne le changement, qui provoque la transformation des espèces. Une incroyable évolution se dessine chez les salamandres et les pinsons, et les chrysopes et les poissons volants. Et tout cela va jouer les perturbateurs d'une théorie qui ronronnait. Et parfois, il suffit de très peu de choses pour réaliser un tel bouleversement.
Bonjour, auditrices et auditeurs intrépides de Radio Libertaire. C'était Ottava, un groupe russe gothique à partir de musique traditionnelle qui nous interprétait à propos d'Ivan Grove. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître et sans dieu, sans publicité. Et nous allons aujourd'hui discuter d'un drôle d'événement qui remet en cause bien des choses, le déplacement de caractère. Bonjour Thierry, nous poursuivons notre exploration de l'évolution des espèces avec un effet puissant et méconnu, mais qui finalement reste quelque chose d'assez fantastique. Bon, nous allons donc parler d'une petite grenouille de nos champs, mais d'abord, pour commencer, on sait depuis longtemps que les caractères morphologiques évoluent sous l'effet de l'environnement. Mais en termes de biologie, qu'est-ce qui définit un caractère et qu'est-ce qui fait un trait évolutif ?
Bonjour Siona. Et oui, l'évolution est déterminée par ce qu'on appelle le changement des caractères. Alors, c'est pas n'importe quel caractère, hein. Ce sont souvent des caractères morphologiques, comportementaux. On va voir ça avec notre petite grenouille agile quand elle va nous montrer ses jolies jambes. En effet, on nomme caractère un trait morphologique, un trait comportemental, physiologique ou encore sexuel, voire même écologique, qui est propre à une espèce donnée. Alors Jean-Baptiste Lamarck avait compris que les espèces évoluaient à travers ces multiples petits changements pour en faire des espèces nouvelles. Par petites touches, les espèces dévoilent donc des caractères qui progressivement vont diverger les uns des autres. Un caractère, ça peut être morphologique, comme la forme des bois, la longueur de la queue, la couleur du pelage, ou bien toute autre chose, comme par exemple le chant des oiseaux, ou encore une conduite sexuelle. On parle de caractère du phénotype, c'est-à-dire de caractère phénotypique. Mais qu'est-ce qui en fait un caractère ? Eh bien, c'est qu'il est hérité génétiquement, et qu'il peut se transformer au cours de l'évolution d'une espèce.
Donc en fait, le trait de caractère est un élément essentiel de l'évolution des espèces.
En effet, Siona, la modification des fréquences de gènes entraîne une modification des caractères propres à une espèce donnée. Le phénotype de l'espèce dépend de l'expression des gènes, et si cette hérédité change, les caractères, c'est-à-dire l'ensemble du phénotype, peut changer aussi. C'est ça l'évolution biologique.
Mais qu'est-ce qui détermine ainsi les caractères d'une espèce ? Qui vont changer ? Qu'est-ce qui va changer ? Pourquoi la morphologie peut-elle être modifiée à l'intérieur d'une espèce ou pour former de nouvelles espèces ?
Alors, il faut distinguer ce qui fait le moteur de la transformation des espèces. Quand Darwin a publié son célèbre ouvrage « De l'origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie », il a identifié que la sélection naturelle était le processus dominant qui faisait le changement des caractères des espèces. En quelque sorte, pour lui, les caractères phénotypiques changeaient parce que les espèces s'adaptaient progressivement aux conditions de leur milieu en luttant les unes contre les autres. Sous l'effet des contraintes de l'environnement, les individus qui présentaient des caractères adaptés, particuliers, survivaient mieux que les autres. Grâce à ces variations morphologiques, comportementales ou autres, les individus se reproduisent mieux, survivent mieux, et donc l'espèce s'installe progressivement, et elle installe ces variations comme étant la spécificité, c'est-à-dire la norme de l'espèce. C'est ça l'évolution. Le changement de morphologie ou de comportement résulterait donc d'une meilleure adaptation de chacun, selon Darwin. Ainsi, les pinsons des Galapagos, ces fameux pinsons si célèbres, possédaient des becs différents pour répondre aux conditions écologiques d'îles différentes.
Oui, chaque espèce de pinson a un bec différent des autres parce qu'il est adapté à une source différente. Donc, le changement de caractère conduit à la transformation d'une espèce en une autre espèce plus adaptée grâce à la sélection naturelle, alors.
Oui, voilà. Enfin, disons que Darwin assimile ici le changement de caractère à un changement d'espèce. C'est-à-dire qu'un caractère nouveau qui apparaît lui semble être le facteur adaptatif qui va conduire à la formation d'une nouvelle espèce, toujours à travers la thématique de la concurrence. Hein. On imagine bien le darwinisme, c'est d'abord de la concurrence sauvage entre toutes les espèces. Et donc, c'est cette concurrence, cette lutte pour la vie qui crée ce mécanisme. On pense toujours que la formation d'une espèce nouvelle va dériver donc de l'accumulation de caractères nouveaux sous l'effet des contraintes de l'environnement. La théorie biologique actuelle continue d'affirmer donc que l'évolution se résume à cette sélection de caractères nouveaux puisque le caractère phénotypique héréditaire résulte d'un changement de gène. Le loup gris est devenu blanc pour répondre aux exigences des contraintes du monde arctique par exemple. C'est selon le darwinisme une adaptation évidente.
donc Thierry, pour poursuivre le changement de caractère, constitue un facteur qui démontre en quelque sorte l'adaptation des espèces à des milieux. Chaque espèce voit ses caractères changer sous l'effet de la sélection naturelle.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Si le changement d'un trait morphologique, la taille des bois, la couleur du pelage, par exemple notre loup blanc, résulte bien d'une modification génétique héréditaire, elle est insuffisante pour déterminer l'apparition d'une espèce nouvelle. On obtient juste pour le moment une variation. Variation plus ou moins héréditaire selon l'expression des gènes. Le loup blanc reste un loup. Différent, mais c'est pas une nouvelle espèce. Il peut continuer de s'accoupler avec le loup gris. Car en plus de ce processus de modification des traits de caractère, il faut que l'espèce se sépare de l'autre espèce qui, elle, ne se serait pas modifiée. Il faut donc ce que Ernst Mayr, le grand tenant du néo-darwinisme, appelait un isolement reproducteur. Que chaque espèce ne se reproduise qu'avec celle qui lui ressemble, parce qu'elle aurait les mêmes caractères.
Donc, pour que les caractères changent, il faut donc une sélection naturelle, mais cela ne suffit pas à faire apparaître une nouvelle espèce. Il existe un autre processus évolutif alors.
Oui, on appelle ça la sélection sexuelle. Par exemple, un oiseau muni d'une longue queue préférerait s'accoupler avec une femelle qui posséderait aussi une longue queue. Ou à l'inverse, une femelle choisirait un mâle qui détiendrait des caractères préférés par elle. Par exemple, les longues jambes de la grenouille agile pourraient être
nous y
le caractère.
Non, elle a un côté sexy alors.
En tout cas, on va regarder ses jambes. Car à force de choisir en fonction de ses caractères particuliers, l'espèce pourrait évoluer en présentant ses caractères. Chaque fois que la femelle préférerait un mâle qui présente ce caractère, elle participerait à ancrer le changement évolutif. Et là, évidemment, c'est différent de la concurrence.
Bon, c'est donc très simple l'évolution. La sélection naturelle est donc complétée par la sélection sexuelle pour déterminer les caractères morphologiques, les formes, les couleurs des espèces et fabriquer des espèces nouvelles.
Ah oui, tout à fait, c'est ça. La théorie biologique néo-darwinienne affirme que les changements sont des changements de gènes mieux adaptés. Et c'est là que l'affaire se corse, car ce sont les longues jambes de notre grenouille agile qui va maintenant nous faire défaut.
Raconte-nous pourquoi cette affaire est plus subtile que seulement une sélection naturelle.
Eh bien, dans cette histoire de grenouille, de cette petite histoire de la grenouille de nos bocages et de ses jolies jambes, on va voir un peu que quelque chose de bizarre se passe. Alors, pour resituer, il existe, surtout dans l'ouest et le sud-ouest de la France, une petite espèce de grenouille brune, tachetée de clair sur le dos, avec un museau pointu. Elle vit plutôt dans les champs humides, avec un tout petit champ, et elle s'appelle la grenouille agile.
Oui, je vois. C'est cette petite grenouille de couleur un petit peu rousse qui saute dans les herbes difficiles à attraper et les gens l'appellent souvent la rainette des champs.
Mais ce n'est pas une rainette, Siona.
Non.
Car la rainette, elle est verte, au contraire. Là, on a affaire.
Puis elle est plus petite.
Voilà, on a affaire à une grenouille brune, la grenouille agile. Alors, elle est très agile, en effet, et donc elle est délicate à attraper. C'est une espèce commune dans l'ouest, sa couleur est brune, mais ce qui la caractérise, c'est de posséder des longues pattes très allongées. Ses longues jambes sont une caractéristique très importante. Par exemple, pour identifier la grenouille agile, il suffit de plier sa patte vers l'avant de son corps, et si l'articulation tibio-tarsienne, sa cheville en quelque sorte, dépasse la longueur de son corps, c'est qu'elle a des jambes assez longues, et donc c'est bien une grenouille agile.
Ah oui, cette histoire de jambes, alors on continue. La grenouille agile est donc la petite grenouille qui saute bien et qui monte de longues jambes, une danseuse en quelque sorte.
Oui, Siona, et si nous reprenons cette affaire, on peut dire que le caractère jambes longues résulte soit de la sélection naturelle, seules les grenouilles qui avaient d'aussi longues jambes ont survécu, soit de la sélection sexuelle, les femelles, par exemple, préféraient s'accoupler avec des mâles qui ont des longues jambes.
Alors, si c'est la sélection naturelle, quel est le facteur qui aurait conduit à ce caractère longue jambe ?
Eh bien, il faudrait que ces longues jambes, par exemple, lui permettent d'échapper à un prédateur.
Oui.
Il y a d'ailleurs une publication assez étonnante comme ça sur le lézard des Caraïbes. Après l'introduction d'un prédateur, ces lézards auraient, ce sont des annolisses, auraient arboré des pattes plus grandes parce que seuls auraient survécu les lézards capables d'échapper aux prédateurs. Alors les auteurs évidemment mentionnent ça comme une preuve de la sélection darwinienne sur les îles. Sur France Culture d'ailleurs, l'animateur radio qui m'avait annoncé ça, il avait annoncé ça comme un fait qui contredisait totalement toutes mes théories.
Donc ici, la longueur des pattes de notre jolie grenouille agile pourrait découler de la sélection naturelle.
Comme pour les anolis, voilà l'hypothèse. Reste à savoir quel serait le facteur de cette sélection. Les grenouilles sont chassées par le putois et par le héron. Mais ces deux-là les chassent la nuit, au moment où elles vont nager dans les mares. Mais, admettons, sous l'effet d'une forte prédation, les grenouilles agiles auraient acquis de longues pattes pour s'échapper. Nous avons maintenant deux questions. La première question est, est-ce que toutes les grenouilles agiles ont acquis ces longues pattes? Et la seconde question est, est-ce qu'il existe d'autres grenouilles qui n'ont pas ces longues pattes? Et voilà que commence le problème. En effet, toutes les grenouilles agiles ont bien le même habitat, et elles ont bien les mêmes prédateurs. Ces petites grenouilles brunes n'ont pourtant pas toutes la même longueur de pattes. Et plus on descend dans le sud de la France, moins leurs pattes sont allongées. Les grenouilles du nord-ouest ont donc de très longues jambes, et celles du sud-ouest ont des jambes nettement plus courtes.
Eh oui, dans le nord, on a des grandes jambes. Donc, pourtant, elles vivent dans les mêmes conditions, dans les mêmes champs, des mêmes bocages.
Oui, la morphologie des grenouilles agiles change, le caractère jambes longues est déplacé au fur et à mesure qu'on descend vers le sud. La grenouille agile dévoile donc une morphologie différente selon l'endroit. Mais ce n'est pas tout. Car il existe en outre une autre espèce de grenouille brune, la grenouille rousse, Rana temporaria. Elle vit dans les champs et ressemble beaucoup à la grenouille agile. Son museau est arrondi, tandis que celui de la grenouille agile est allongé. Et les jambes de la grenouille rousse sont beaucoup plus courtes que celles de la grenouille agile. Et c'est pour ça qu'il faut les mesurer pour les différencier. Enfin, globalement, on se demande pourquoi il existe comme ça deux espèces de grenouilles qui se ressemblent entre elles et qui semblent vivre dans la même niche écologique, qui vivent de la même façon et avec les mêmes prédateurs, le même héron et le même putois. Les deux grenouilles paraissent être des concurrentes, et donc la sélection devrait jouer à point pour les empêcher de vivre côte à côte. Et du coup, si la grenouille rousse ne possède pas de longues jambes, à quoi peuvent bien servir les longues jambes de la grenouille agile? Ce n'est pas une adaptation si ce caractère n'est pas indispensable pour survivre. Alors pourquoi les grenouilles agiles vont-elles présenter ce changement de caractère morphologique? Pourquoi arborer de longues jambes quand on est une grenouille agile et en plus pas toujours?
Et alors pourquoi la grenouille agile n'a pas toujours les mêmes longues jambes? Pourquoi le caractère longue jambe est-il différent selon l'endroit?
Eh bien, c'est là qu'on approche de ce qu'est le déplacement de caractère. Le caractère longue jambe s'est déplacé à l'intérieur de l'espèce grenouille agile. Car c'est bien dans l'espèce Rana dalmatina, la grenouille agile, que les choses changent. Cette grenouille agile présente tantôt de longues jambes, tantôt des jambes moins longues. Et en fait, l'explication n'est pas dans la grenouille agile. C'est au contraire dans l'interaction avec l'autre espèce, avec la grenouille rousse. Quand la présence de la grenouille rousse est très forte, la grenouille agile se différencie par ses longues jambes, démontrant qu'elle utilise une micro-niche écologique mal identifiée. Au contraire, quand la présence de la grenouille rousse est plus faible, la grenouille agile n'exhibe plus ce caractère longue jambe. L'espèce grenouille agile diverge donc au sein d'elle-même. Il existe celles qui vont montrer de longues jambes, pour faire du French cancan, et les autres qui dévoilent au sud des jambes plus petites. Mais qu'est-ce qui fait varier ces deux groupes de grenouilles agiles? Eh bien, c'est uniquement la présence de la grenouille rousse. Quand la grenouille agile vit avec la grenouille rousse abondante, ses pattes se rallongent. Au contraire, si elle vit avec des populations plus faibles de grenouilles rousses, ses pattes raccourcissent. Voilà donc un déplacement de caractère extraordinairement original qui démontre que c'est une espèce A qui agit sur une espèce B pour fabriquer une modification au sein de l'espèce B qui se partage alors en deux ou trois groupes, B', B', etc.
Oui, c'est donc la présence d'une autre espèce qui entraîne un changement de caractère au sein d'une autre espèce.
Voilà, l'évolution qui se fait sous le seul effet de la présence d'une autre espèce. On voit ce que prédit l'écologie évolutive. L'évolution dépend des autres. Dans l'interaction entre les espèces, c'est là que se fait l'évolution. Les caractères se déplacent sous le simple effet des interactions écologiques. Il va falloir maintenant voir comment.
Nous écoutions le Fog Mountain Breakdown dans une version de 1949, diablement interprétée par Flat Shrugs. C'est à partir d'une petite grenouille que nous avons commencé cette histoire du déplacement de caractère. En effet, Thierry, nous venons donc d'évoquer que la simple présence de la grenouille rousse avait déclenché la modification des caractères longue jambe chez la grenouille agile.
Tout à fait, Siona. C'est pour cela qu'elle est capable de danser le French Cancan. Bon, le déplacement d'un caractère s'effectue sous le simple effet de la présence d'une autre espèce. La grenouille agile arbore des jambes plus longues que les autres grenouilles agiles quand elle est en présence de la grenouille rousse. Le déplacement de caractère constitue l'élément majeur de l'écologie évolutive, de l'évolution des espèces. Et ce qui est fantastique, c'est que cette évolution se fait sous l'effet des interactions, des interrelations entre des espèces différentes.
Oui Thierry, c'est un phénomène tout à fait étonnant qui change totalement nos perspectives sur l'évolution. Mais pour le moment, on ne comprend pas comment une espèce peut agir sur une autre par sa seule présence. Parce que cet effet est un effet sur les caractères héréditaires d'une espèce. On change les gènes d'une autre espèce.
Alors c'est en effet ça le problème. La présence d'une espèce va modifier la génétique d'une autre espèce. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que le phénomène touche une espèce juste parce qu'elle est en contact avec une autre. Ça c'est un point important. C'est à l'intérieur d'une espèce que les choses se passent. Deux groupes, deux populations de la même espèce vont diverger progressivement parce que l'un de leurs caractères va petit à petit différer. Les longues jambes chez la grenouille agile, qui sont courtes lorsqu'elle est en présence de la grenouille rousse. Et ce qui fait différer ce caractère, c'est juste la présence d'une autre espèce. On l'a vu, ce sont bien les longues jambes de la grenouille agile qui changent en présence de la grenouille rousse. Aujourd'hui, un nombre croissant d'études qui utilisent ces approches intégrées et multidisciplinaires ont démontré que le déplacement des caractéristiques écologiques est un phénomène écologique et évolutionnaire important.
L'étude de l'adaptation a été une question centrale en biologie avant l'époque de Darwin. Mais la théorie de déplacement de caractère s'est développée quand et comment ?
Alors, la théorie du déplacement de caractère écologique a été développée pour la première fois, d'une manière très claire et très explicite, par Brown et Wilson en 1956. Bon, c'est une idée tout à fait néo-darwinienne, avec une idée qui sous-tend la théorie qui est très simple. Supposons que des espèces très semblables entrent en contact. Dans un cadre darwinien naïf, si les ressources sont limitées, les espèces sont susceptibles d'être très compétitives, et donc l'une des conséquences possibles est l'exclusion par la concurrence. Le concurrent le mieux adapté va triompher, et le concurrent inférieur s'éteindra selon le principe très simple de la sélection naturelle, la lutte pour la vie. La décennie allant du milieu des années 70 au milieu des années 80 a été tumultueuse, tant en biologie évolutive qu'en écologie. Même si la primauté de la sélection naturelle en tant que moteur principal du changement était attaquée, des arguments parallèles ont été avancés contre l'écologie évolutive et contre le déplacement de caractère. Car dans la théorie néo-darwiniste orthodoxe, des espèces trop semblables sur le plan morphologique ne pouvaient tout simplement pas coexister, car leur compétition devait les anéantir l'une l'autre, pas de changement de caractère.
Oui, c'est le principe de la concurrence exclusive de Darwin et de la sélection naturelle, la lutte pour la vie, la struggle for life.
Mais en fait, il existe une autre possibilité. Imaginons que dans chaque population, il existe des individus dont le phénotype leur permet d'utiliser des ressources non utilisées par les membres des autres espèces. Alors, le résultat peut être que les populations d'une même espèce vont diverger dans leur caractère parce qu'ils divergent dans l'exploitation des ressources. D'où le terme de déplacement. Au lieu d'aboutir à ce que les meilleurs anéantissent les autres dans une lutte pour la survie, le déplacement de caractère réduit au contraire la concurrence pour les ressources et permet la coexistence.
Qui sont les inventeurs du concept ?
Paradoxalement, ce sont donc les deux chercheurs néo-darwinistes très reconnus, Brown et Wilson, qui ont explicité leur théorie du déplacement de caractère en 1956. Ils écrivent très exactement. Deux espèces étroitement apparentées ont des aires de répartition qui se chevauchent. Dans les parties des aires où cette espèce se retrouve seule, les populations de cette espèce sont semblables à celles des autres espèces et peuvent même être très difficiles à distinguer de celles-ci. Dans les zones de chevauchement où les deux espèces se trouvent ensemble, les populations sont plus divergentes et se distinguent plus facilement, c'est-à-dire qu'elles se déplacent l'une l'autre en plusieurs caractères. Voilà. Alors, bien entendu, l'idée que ces caractères impliqués peuvent être morphologiques, écologiques, comportementaux ou physiologiques est retenue. Et dans tous les cas, ils sont supposés être héréditaires, donc présumés d'origine génétique.
C'est donc une démonstration qui vient contrarier l'idée de sélection naturelle toute puissante.
Oui. Du coup, le dépassement des caractères peut être considéré comme une force puissante qui va structurer les communautés au niveau écologique. C'est souvent la simple présence d'une espèce qui va déclencher le déplacement de caractère d'une autre espèce. Mais on va voir qu'il peut aussi s'agir de l'effet de ressources étroites ou d'autres facteurs écologiques. Imaginons la communauté des poissons du lac Tanganyika. Il existe des poissons mangeurs d'algues, des poissons prédateurs, d'autres poissons mangeurs de ceci ou cela. Mais au sein de ces dizaines d'espèces, il en existe un autre groupe très étonnant. Ce sont les poissons mangeurs d'écailles, comme par exemple Perissodus microlepis. Alors, ces poissons mangeurs d'écailles se sont installés tardivement dans les lacs africains et n'ont pu obtenir que cette maigre pitance. Ce sont des tout petits poissons parasites. Alors ils s'approchent des autres poissons, leur arrachent une écaille sur le côté, puis filent vite se mettre à l'abri une fois leur larcin effectué pour pouvoir dévorer leur proie.
Ces petits poissons voleurs d'écailles parasitent donc les plus gros en se nourrissant juste de leurs écailles.
En se nourrissant juste de leurs écailles, ces poissons ont développé cette habitude particulière. Alors ils s'avancent sur le côté de leur victime, ils s'approchent discrètement, saisissent une écaille et vont l'arracher aussitôt pour déguster l'écaille et un peu de chair de poisson en même temps. Voilà déjà un régime alimentaire très spécialisé, très maigre et apparemment lié à une certaine pénurie des ressources. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce lac Tanganyika, il n'existe pas une espèce de poisson mangeur d'écailles, mais deux espèces différentes, et ces deux poissons voleurs d'écailles dans le même lac, comme si une seule espèce ne suffisait pas.
Deux espèces de poissons mangeurs d'écailles ? Cela veut dire qu'ils sont en concurrence alors, l'une et l'autre pour la même proie, la même niche alimentaire. Comment peuvent-ils coexister ? C'est contre l'idée même finalement de l'exclusion compétitive.
En effet, car les poissons mangeurs d'écailles ont une particularité, leur bouche. Leur bouche est façonnée pour prélever les écailles du flanc des poissons qui vivent avec eux dans les grands lacs africains. Alors il faut bien imaginer que toute la postérité de notre poisson va résider dans sa dextérité buccale. La bouche est tordue et chaque espèce possède une bouche orientée différemment. Il existe des poissons mangeurs d'écailles à gauche et des poissons mangeurs d'écailles à droite.
Allez bon.
Leur bouche est donc tordue de deux côtés différents. En effet, imaginez. Quand le poisson s'approche de sa victime, il lui arrache une écaille sur le côté droit. Et donc, il doit le faire à toute vitesse, et avec beaucoup d'efficacité, s'il ne veut pas subir le réprimande du poisson qui a été volé. Donc, si la bouche est orientée vers la gauche, ça va faciliter l'arrachage d'une écaille à droite de son poisson cible. Et inversement, et voilà pourquoi il existe deux espèces, une qui cible les écailles à gauche, l'autre à droite, et leur coexistence s'avère très efficace pour harceler les poissons cibles.
Mais comment ces deux espèces ont-elles pu diverger et comment peuvent-elles se maintenir ? Il s'agit d'un caractère héréditaire, comment peut-il changer ?
Il s'agit d'un déplacement de caractère et effectivement c'est génétique dans son expression. Chaque bouche est génétiquement et donc d'une manière héréditaire acquise pendant la reproduction. Imaginons que l'espèce gauche s'hybride avec l'espèce droite. Les descendants auraient génétiquement une bouche au milieu, mal tournée, médiane, moins efficace. Ouais. Et donc, comme ils seraient moins efficaces que leur bouche tordue d'origine, les hybrides entre les deux formes sont condamnés, inaptes au travail d'arrachage des écailles. Les métis à bouche rectiligne n'ont donc pas d'avenir, et il ne peut exister que des formes gauches ou des formes droites. Il n'y a pas de niche intermédiaire. Donc, deux espèces ont vu leur bouche se tordre pour s'inscrire dans une niche écologique extraordinairement spécialisée. C'est un appariement assorti qui contribue à préserver cette divergence. Les poissons s'accouplent, si vous préférez, en choisissant leur partenaire à la condition qu'il ait la même bouche tordue, ce qui maintient chaque population à environ 50-50. Les poissons mangeurs d'écailles gauchers restent irrémédiablement séparés des poissons mangeurs d'écailles droitiers. On commence à comprendre que le déplacement de caractère va s'effectuer comme une modification morphologique directement liée à l'écologie évolutive des espèces.
Là, finalement, les deux espèces de poissons vivent ensemble et coexistent, et cela est possible.
C'est même l'une des conditions pour faire émerger les déplacements héréditaires de caractère. Le déplacement de caractère, c'est la situation dans laquelle, lorsque deux espèces d'animaux se chevauchent géographiquement, habitent ensemble dans le même environnement, les divergences de caractère entre elles vont s'accentuer dans la zone de sympatrie. Alors, la zone de sympatrie, c'est l'environnement dans lequel ils cohabitent. Au contraire, les différences vont s'affaiblir ou vont même se perdre, on parle d'un relâchement de caractère, dans les parties de, où l'horaire de répartition est complètement séparé à l'extérieur de cette zone.
Donc, une espèce se partage en deux et diverge sous l'effet d'un simple facteur quand elle est en contact avec une autre ou un facteur contraignant.
Oui, mais il faut quand même plusieurs conditions pour que l'écologie évolutive aboutisse à la formation d'une telle divergence sous le simple effet d'une ressource ou la présence d'une autre espèce. Bon, certains ont même exigé des conditions extrêmes pour pouvoir prouver l'existence de la formation de nouvelles espèces quand elles partageaient les mêmes gènes et qu'elles pouvaient se reproduire ensemble. Le déplacement de caractère conduisait à la formation d'espèces nouvelles sans coupure géographique ni génétique. Alors ça paraissait impossible à concevoir pour les tenants d'une évolution darwinienne orthodoxe. Où était la sélection naturelle? Que devenait la lutte pour la vie si les espèces pouvaient cohabiter tout en se différenciant, en se spécialisant? En outre, pour prouver le déplacement de caractère, il est nécessaire d'analyser tout un ensemble de paramètres différents. Il y avait donc de la place pour la contestation du rôle de l'écologie évolutive.
Du coup, le déplacement de caractère est à la fois génétique, écologique et morphologique. C'est pourtant un véritable facteur d'évolution des espèces. Qu'est-ce qui poussait la contestation de ce processus d'évolution ?
Dans les années 90 à 2000, les analyses statistiques ont semblé montrer que les différences entre les espèces qui vivaient dans le même habitat, donc les espèces sympatriques, eh bien ces différences n'étaient pas plus grandes que ce qu'on pouvait s'attendre statistiquement au hasard. Du coup, que penser de la divergence ? De plus, même lorsque la morphologie des espèces sympatriques était très différente, le déplacement des caractères ne paraissait qu'une des explications possibles, comme une des causes sous-jacentes. Mais il y aurait eu d'autres explications qui auraient été bien meilleures, comme la concurrence. De plus, des traitements théoriques ont suggéré que les conditions dans lesquelles le déplacement des caractères pouvait se produire étaient beaucoup plus restrictives que ce qu'on disait. Le résultat, ça a été que l'importance du déplacement de caractères en tant que force structurante des communautés écologiques a été fortement contestée et que beaucoup l'ont considéré comme un phénomène trop rare pour lequel trop peu d'exemples convaincants auraient pu être trouvés. Le darwinisme orthodoxe était sauvé, le déplacement de caractère existait, mais à un niveau bien trop rare pour s'avérer un phénomène efficace en évolution. On pouvait donc le tolérer comme une exception et reprendre des travaux de biologie évolutive sans se préoccuper de l'écologie et de tout ce qu'on considérait comme des exceptions. Seulement voilà, l'écologie évolutive allait encore prendre sa revanche.
Other, pretending we're here alone and far away.
C'était Rébellion par Linkin Park. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Et dans une émission faite pour tous les cortiques et lubulbes, science sans liberté, parce qu'il n'y a surtout pas de science sans liberté. Nous ne parlons pas de littérature, mais bien ici de caractère biologique. Toujours à la recherche de perspectives qu'ouvre le concept de déplacement de caractère, nous allons regarder de plus près chez les espèces chez qui cela intervient.
Et encore que le déplacement de caractère pourrait même se produire chez des bruyères, comme
N'est-ce
la bruyère.
Bon.
Le déplacement de caractère se produit lorsque certaines caractéristiques réagissent à des facteurs évolutifs. Ce déplacement permet à des espèces étroitement apparentées de coexister. L'étude de l'épinoche à trois épines a mis en évidence un déplacement de caractère. Les observations des populations naturelles ont montré que lorsque deux espèces récemment évoluées se trouvent dans le même lac, deux morphologies vont être choisies. L'une qui est limnétique, qui se nourrit donc en eau libre, et l'autre qui est benthique, qui se nourrit sur le fond. Alors ils vont différer par leur taille, leur forme, le nombre, la longueur des branchies. Tous ces changements de caractère sont liés à la divergence dans leur alimentation.
Mais pour reconnaître des cas de déplacement de caractère, il faut désormais clarifier ce qui contribue et permet de l'affirmer sans contestation possible.
Oui, parce que dans l'explication initiale du déplacement de caractère, bon nombre des exemples présentés comme des preuves du déplacement étaient en fait des observations assez naïves de cohabitation plus ou moins provisoire. Les études récentes illustrent les conditions d'une approche beaucoup plus convaincante. Ainsi, Schlutter et McPhail ont décrit 6 moyens pour tester l'hypothèse d'un déplacement des caractères. Premièrement, il faut que les différences entre les taxons sympatriques qui vivent ensemble donc soient plus grandes que prévues par le hasard. Si on préfère, il faut que la divergence à l'intérieur de l'espèce soit plus forte que celle prédite par le simple hasard statistique.
Il s'agit donc d'une mesure statistique qui laisse suggérer que quelque chose intervient dans l'évolution des espèces, en tout cas dans leur différence de caractère.
Oui, mais il faut reconnaître une deuxième condition. Les différences entre les caractères doivent être corrélées aux différences dans l'utilisation des ressources. Soyons clairs, il faut que les ressources soient disponibles, mais que le déplacement de caractère favorise une exploitation divergente des ressources, comme on l'a vu par exemple pour les poissons mangeurs d'écailles. Alors les ressources sont limitées, et la concurrence interspécifique pour ces ressources est donc fonction de la similitude des caractères, ça c'est pour retrouver un aspect un peu néo-darwinien.
Ce qui laisse entendre que les ressources soient à la fois identiques et utilisées différemment.
Tout à fait. La répartition des ressources est la même, de sorte que les différences entre caractères, la couleur, la morphologie, ne reflètent pas simplement des différences de disponibilité. Par exemple, si certaines localités avaient une abondance d'insectes grands et d'insectes petits, mais que quelques insectes de taille intermédiaire, on pourrait penser que les deux espèces peuvent coexister, une adaptée à la capture de chaque classe de taille, alors que d'autres localités, n'abritant que des insectes de taille intermédiaire, pourraient ne recevoir ou accueillir qu'une seule espèce. Ces différences pourraient donc ne pas être les résultats d'un déplacement de caractère, mais d'un simple suivi écologique de la disponibilité des ressources.
En effet, mais cela paraît assez compliqué et il faut ajouter l'aspect génétique.
Oui, c'est assez compliqué de suivre les critères vraiment bord à bord. Mais puis il faut ajouter un autre critère en effet essentiel, c'est que la différence de caractère soit aussi d'ordre génétique et se transmette aux générations suivantes, en tout cas au moins dans l'expression des gènes. Les différences doivent être d'ordre génétique et c'est là qu'intervient l'écologie évolutive. La divergence doit précéder la spéciation, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle espèce. La coexistence associée par l'une ou l'autre de ces causes non génétiques serait certainement intéressante, mais elle ne serait pas considérée comme un véritable déplacement de caractère.
Il faudrait clarifier tout cela avec des exemples tirés de la nature réelle pour comprendre ce que ça implique comme une telle variation.
Alors, on va essayer de comprendre ça assez facilement avec un exemple de déplacement de caractère chez les oiseaux. Ce déplacement instaure une divergence progressive qui sera la semonce à la fabrication d'une nouvelle espèce. Pourquoi ? Parce que le développement du caractère intervient directement sur des traits sexuels et ça va modifier la séduction par la suite. Ça va donc modifier la reproduction. Une nouvelle espèce peut donc apparaître. Alors considérons le barbillon à gorge jaune, Pogonulus subsulfurus. C'est un petit oiseau africain avec un nom soufre à cause de sa gorge jaune soufre. Il vit du Cameroun à l'Ouganda. Juste à côté de lui, il existe une autre espèce, un autre barbillon, le barbillon à croupion jaune. Mais lui, il a une gorge blanche. C'est Pogonulus bilineatus. En fait, dans la forêt, ils ne vivent pas en général côte à côte. Lorsque le barbillon à gorge jaune vit seul, en dehors des lieux occupés par son cousin, il émet son petit chant en répétant une simple note, une flûtée, un peu un cri aigu. C'est autour de 1300 Hz. Et ça, ça va séduire les femelles. Alors on écoute. Les choses pourraient en rester là. Le barbillon à gorge jaune pourrait séduire simplement les femelles. Toutefois, l'appel amoureux du barbillon à gorge jaune peut changer.
En fait, l'oiseau chante pour séduire les femelles. Il n'a donc pas intérêt à proposer un autre chant moins séducteur. D'autant que le chant est une simple note bien identifiée par l'espèce. Alors, qu'est-ce qui fait que le chant se modifie ?
Eh oui, tu as raison. C'est ça qui peut paraître très étrange. Quand il vit seul, loin de son cousin à gorge blanche, il n'y a pas de problème. Mais quand les deux espèces, celui à gorge jaune et celui à gorge blanche, habitent le même boisement, les choses deviennent carrément plus compliquées. Le barbillon à gorge blanche charme lui ses femelles avec une voix de baryton, une note plus basse que notre gorge jaune. Sa note est d'environ autour de 1000 Hz. Mais cette mélodie grave a le don de séduire beaucoup plus que l'on croit les femelles du gorge jaune. Le chant du gorge blanche va donc aussi séduire les femelles du gorge jaune. Et si ce chant ressemble beaucoup trop à l'espèce qu'il côtoie, la séduction s'embrouille. Du coup, le jaune et le blanc vont s'hybrider, au point que le barbillon à gorge jaune pourrait disparaître. Heureusement, il dispose d'une botte secrète. Notre barbillon à gorge jaune va modifier son chant pour mieux se distinguer du gorge blanche. En fait, certains individus émettent des variations avec des notes très différentes, franchement beaucoup plus hautes, jusqu'à 1500 Hz. Mais en faisant cela, il réussit à intéresser ses propres femelles à gorge jaune. Alors s'il chante comme d'habitude, il ne réussit pas à se distinguer et donc il s'hybride avec l'autre espèce, ou plus exactement, les barbillons qui vocalisent comme leur ferait leur espèce naturelle finissent dans la confusion et s'hybrident et copulent pour rien avec l'autre espèce car l'hybride n'est pas fertile. Au contraire, ceux qui ont montré une légère différence plus aiguë vont devenir plus aisés à reconnaître par les femelles et par conséquent, ces séducteurs vont obtenir plus fréquemment des amours et donc des descendants avec leurs propres partenaires à gorge jaune qui les reconnaissent. Du coup, ceux qui ne chantent pas un refrain aussi haut se perdent en s'hybridant. Seuls vont survivre dans cette forêt les barbillons à gorge jaune qui chantent haut, les ténors qui vont se différencier des barbillons à gorge blanche qui, eux, ont une note beaucoup plus grave.
Finalement, la proximité des deux barbillons dans les mêmes forêts conduit donc à une discrimination plus forte de leur chant, l'un plus grave et l'autre de plus en plus aigu, afin de séduire leurs propres femelles.
Voilà, tout à fait. Il y a eu un déplacement de caractère. Le caractère chant passe d'une sonorité moyenne à une mélodie très aiguë chez le barbillon à gorge jaune, selon qu'ils vivent ou pas au voisinage des barbillons à gorge blanche. Il en découle que le chant des barbillons qui côtoie une autre espèce va se particulariser bientôt de celui de leur propre espèce. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce changement de refrain entraîne que les barbillons à gorge jaune ne se reconnaissent plus entre les groupes. Celui à gorge jaune qui vit seul, isolé, il continue à chanter à 1300 Hz, alors que le barbillon à gorge jaune qui réside dans la même forêt que le barbillon à gorge blanche a remplacé petit à petit son chant par une note beaucoup plus aiguë autour de 1500 Hz. Ce déplacement de caractère, qui est un caractère reproducteur, va se renforcer et bouleverser toutes les barrières reproductives. L'espèce est donc en train de se partager en deux espèces nouvelles. Voilà notre barbillon à gorge jaune qui va se séparer en deux, et cela sous le seul effet de la présence d'une autre espèce, le barbillon, à gorge blanche. Ce déplacement va donc favoriser ou réduire la reproduction entre deux espèces, tout en créant un modèle plus fort pour une seule espèce.
Donc c'est clair, on ne vit pas pareil et on n'évolue pas d'une manière similaire selon que les autres nous entourent ou pas.
Et c'est une véritable leçon d'écologie évolutive.
Oui.
Et tout ça, ça touche des milliers d'espèces différentes, végétaux ou animaux. Il est donc démontré que les autres espèces interviennent pour nous modifier, pour orienter notre évolution, ou si l'on préfère, que notre évolution dépend des autres, même si les autres ne font pas grand-chose. On constate ici la force structurante des interactions. L'écologie s'est faite de ces milliers d'interactions subtiles qui structurent la planète, mais du coup, on voit que la formation d'espèces nouvelles va s'effectuer à travers leur écologie, sans la concurrence nécessaire darwinienne au sein d'espèces, là, on peut même avoir une différenciation.
Et sans sélection naturelle apparemment, puisque ici, ce sont des changements de caractère qui s'inscrivent dans la génétique des oiseaux. Les traits de déplacement du caractère d'une même espèce animale pourraient être révélés dans un cadre. Alors qu'aucun de ces traits ne serait évidemment dans un cadre environnemental complètement différent.
Alors pour ces auteurs, il s'agit encore d'un exemple proche de la sélection naturelle. En effet, on peut penser que les deux oiseaux sont sélectionnés à travers des contraintes différentes du milieu. La raison d'être de la sélection naturelle découle du principe de l'exclusion compétitive, qui affirme que pour exister dans un environnement stable, deux espèces concurrentes doivent différer dans leur niche écologique respective, et sans différenciation, une espèce éliminera ou exclura l'autre par la concurrence.
Oui, la sélection naturelle, darwinienne, se fonde sur l'exclusion et la concurrence.
À vrai dire, la sélection naturelle parle de la concurrence au sein de l'espèce, et c'est cette compétition de la lutte pour la vie qui élimine l'autre. Au contraire, l'écologie évolutive et le déplacement de caractère démontrent que c'est sous l'effet des autres espèces, l'effet de la structure des écosystèmes qui provoque les divergences et la cohabitation. C'est bien au sein des communautés. À l'inverse d'une adaptation à un habitat, on a ici un changement de caractère sous le simple effet de l'interaction avec les autres. Et il n'y a pas une adaptation au sens littéral. Le caractère morphologique ou comportemental s'est juste modifié génétiquement à cause de la présence de l'autre espèce. On comprend pourquoi le champ du barbillon est différent. Diabolique du point de vue du darwinisme orthodoxe. Il porte bien son nom de soufre. On voit que la spécialisation précède toujours la formation d'espèces nouvelles, exactement comme le prédit l'écologie évolutive. Et en plus, le champ est un modèle comportemental qui s'y devient progressivement inscrit dans les gènes de l'animal, et seuls les oiseaux qui vont exprimer ce champ pourront se reproduire.
Le champ devient un caractère héréditaire.
Et voilà, nous sommes donc bien dans une écologie évolutive où chaque espèce agit sur les autres à travers des interactions subtiles et répétées au sein des communautés. Une différence s'introduit au sein d'une première espèce quand elle se trouve en présence d'une autre espèce. Alors que le déplacement de caractère a d'abord été discuté dans le contexte des espèces très étroitement apparentées, les données indiquent que même des interactions entre espèces éloignées peuvent entraîner ce déplacement de caractère. Et on constate l'incroyable force de la seule relation entre les espèces, la force structurante de ces différences. Nous sommes dans une écologie et dans une évolution qui a l'écologie comme force.
Sont les ficelles de nos destins, c'est ça qui est bien. On décolle, on rafistole, tout ce qu'on casse, on recolle et puis demain. On se rassure, on fait le mur, on se fout de la nomenclature de cette dictature. La vie, c'est la démerde, et moi je vous emmerde. La vie, c'est la démerde. Les bidules des voisins nous enferment dans nos bulles, c'est certain. On bidouille, on tripatouille, on met du beurre dans nos loups, on est malin. On détend les ressorts qui décident de nos sorts, on n'est pas mort. La vie, c'est la démerde, et moi je vous emmerde. La vie, c'est la démerde, à quatre pattes, un gros trou dans la rate, et on sera beau. La vie, c'est bien tes mères, et moi je vous emmerde. La vie, c'est bien tes mères, et moi je vous emmerde. La vie, c'est bien tes mères, et moi je vous emmerde. La vie, c'est bien tes mères, et moi je vous emmerde.
Nous écoutions le petit son qui interprétait les bidouilles. Nous continuons donc à parler écologie évolutive à travers le processus du déplacement des caractères. Nous venons de voir l'exemple des grenouilles, avec leurs longues jambes, puis des oiseaux, avec les barbillons africains. Mais le déplacement de caractères intervient chez des milliers d'espèces, depuis les mollusques et les fleurs.
Oui, Siona, on s'aperçoit qu'en fait, c'est quelque chose de très commun dans l'évolution. On peut citer l'exemple des chauves-souris nectarivores d'Amérique du Sud, qui, en exploitant les fleurs et le pollen, transportés de fleur en fleur, vont féconder des plantes qui dépendent entièrement de ces minuscules chauves-souris pour fructifier. Mais les chauves-souris ne sont pas sélectives et butinent sans distinction la plupart des fleurs. Comment dès lors les 10 espèces de fleurs fréquentées peuvent-elles être fécondées par des chauves-souris sans que les différents pollens ne soient mélangés et qu'il y ait des hybrides ? Eh bien c'est simple, les fleurs n'ont pas la même longueur. La tête et le dos de la chauve-souris se couvrent de rayures d'un pollen distinct. Et dès qu'elles s'envolent d'une plante à l'autre, chaque rayure horizontale sur le pelage ne se déposera que sur la fleur dont les stigmates sont situés à la bonne longueur.
Fantastique.
La divergence de la longueur des corolles favorise donc la diversité des espèces de plantes fécondées. Le caractère longueur de la corolle s'est donc déplacé selon qu'on était une fleur ou une autre fleur. On voit ici que l'évolution divulgue le rôle de la différence et l'importance des mutualismes.
Le problème, c'est que souvent les chercheurs ont développé l'idée que les caractères se déplacent sous le simple effet darwinien de la concurrence. J'ai vu qu'un chercheur assez connu, Daniel Simberloff, a justement critiqué cela.
Oui, Daniel Simberloff a travaillé sur le déplacement de caractères et sur la compétition. En effet, il a mis en doute l'importance de la compétition comme force de la structuration des écosystèmes. En effet, en utilisant des modèles aléatoires, il a démontré que de nombreuses explications biologiques en termes de compétition ne différaient pas des modèles purement aléatoires. De nombreux faits démontrent l'existence quand même de la compétition interspécifique. C'est le cas des introductions d'espèces comme l'écureuil américain, Scurus carolensis en Angleterre, qui a en grande partie éliminé notre écureuil indigène, écureuil roux, Scurus vulgaris. Mais à chaque fois, ces faits sont liés à des introductions artificielles beaucoup plus qu'à leur histoire évolutive. De fait, ce qui limite la coexistence d'espèces apparentées est souvent lié plutôt à leur histoire de vie.
Le déplacement de caractère démontre la force de l'écologie des relations entre les espèces, ce qui permet de cohabiter dans des réseaux écologiques complexes. Toi-même, Thierry, tu en as étudié l'effet chez des mammifères et des insectes.
Oui, Siona. Nous avons notamment mené une étude chez les chrysopes qui va bien au-delà d'un simple déplacement de caractère. Car ici, l'écologie des espèces est profondément insérée dans des changements et entraîne la formation d'une espèce nouvelle alors qu'elles vivent côte à côte. Alors les chrysopes, ce sont des névroptères, des sortes de petits fourmilions, des petits insectes prédateurs qu'on appelle aussi parfois les demoiselles aux yeux d'or.
Charmant. Alors dans un même milieu, on dit souvent que la formation d'espèces nouvelles n'est pas possible. La vie mitoyenne dans le même habitat pose quel problème pour que les espèces émergent et se différencient ?
Alors à vrai dire, ce qu'on appelle la sympatrie, c'est-à-dire le fait de résider dans le même habitat pour deux espèces semblables, reste la contrainte la plus contestée pour voir des espèces diverger. C'est typiquement quelque chose qui contredit le néo-darwinisme. La spéciation paraît tout simplement impossible puisque le flux génétique persiste entre les individus qui sont côte à côte. L'hypothèse d'une variation sympatrique n'est donc absolument pas compatible avec le néo-darwinisme. Les variations ne devraient se maintenir que chez des espèces séparées qu'on appelle allopatriques. Sauf que les chrysopes, elles se montrent bien impertinentes.
C'est-à-dire que ton équipe a mis en évidence qu'elles sont capables de former de nouvelles espèces tout en occupant le même milieu.
C'est un peu cela. Avec Dominique Thierry, en effet, on a pu réussir à montrer quelque chose de semblable. En fait, il y avait eu un premier travail de Seger qui avait émis cette hypothèse dans une publication qui est restée très longtemps contestée. Mais les chrysopes se montrent d'un intérêt vraiment très fascinant pour l'écologie évolutive. Alors ce sont des petits insectes qui sont des croqueuses de pucerons qu'elles peuvent dévorer par centaines tous les jours. Les larves engloutissent jusqu'à 500-600 pucerons et l'adulte développe 3 à 4 générations de plusieurs centaines d'œufs par saison. Les chrysopes en Europe forment un complexe d'espèces particulièrement difficile à discerner, qui comporte trois espèces, Chrysoperla carnea, Chrysoperla affinis et Chrysoperla lusicanis. Il aurait été impossible de mettre en évidence un déplacement de caractère si nous n'avions pas associé un travail de séquençage de l'ADN mitochondrial, des caractères morphologiques et des traits reproducteurs, tout ça dans une analyse de l'écologie des chrysopes. En fait, bien que la divergence génétique soit encore très menue, une différenciation écologique et morphologique s'est mise en place qui entraîne une différenciation génétique. Le déplacement de caractère agit à travers la variabilité des phénotypes et réussit ainsi à modérer les interactions négatives entre les espèces.
Quelle que soit l'espèce, ces curieux petits insectes diaphanes ressemblent un peu à des petites libellules joliment colorées. Elles sont peu différentes les unes des autres.
Alors, à nos yeux, oui. Lorsque ces chrysopes vivent dans des régions séparées, la morphologie des affinis n'est pas tellement différente. Mais tout change lorsqu'elles habitent avec une autre chrysope, avec la carnea. En fait, les trois espèces qui vivent côte à côte et exploitent les mêmes ressources sont supposées ne pas pouvoir coexister. Or, nous avons mis en évidence qu'un multiple déplacement de caractère et notamment des traits reproductifs avait entraîné la formation d'une nouvelle espèce de chrysope qui cohabite ensemble, donc c'est une spéciation sympatrique qui est généralement considérée comme impossible. En effet, quand deux groupes de la même espèce vivent côte à côte, l'échange des gènes à chaque reproduction est censé empêcher toute divergence pour se maintenir.
Les chrysopes se ressemblent beaucoup, on a l'impression qu'elles font triple effet, mais elles occupent des habitats différents.
En fait, l'espèce affinis, qui réside d'habitude dans le couvert des arbres, a vu son caractère utilisation d'habitat se déplacer vers la strate arbustive, sous l'effet de la présence de l'espèce carnea. Quant à la troisième espèce, lusicana, elle occupe du coup la strate herbacée. En modifiant sa livrée, elle va aussi pouvoir changer ses amours. Les chrysopes se câlinent et émettent de drôles de grésillements du corps. Le son de cet appel érotique charme définitivement les belles, si tant est que ce chant soit reconnaissable. Et en présence de carnea, notre petite affinis bruisse sur une tonalité différente pour réussir à séduire sa partenaire. Du coup, affinis ne chante pas de la même manière partout et va diverger selon qu'il y ait ou non la présence de la carnea. On a donc ici un déplacement de niche écologique associé à des caractères morphologiques et grâce au déplacement de caractères sur des traits sexuels, eh bien c'est devenu héréditaire. Et il suffit d'un seul gène jouant sur le comportement reproducteur et sur la diapause pour que ça marche. En fait, l'interaction entre deux espèces entraîne l'apparition de tant de différences qu'une troisième espèce se forme.
On suppose souvent que les espèces étroitement apparentées sont plus susceptibles d'entrer en compétition que les espèces plus éloignées et par conséquent, de nombreux chercheurs étudient le déplacement des caractères parmi les espèces du même genre.
En effet, là on a quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'on voit très bien comment l'affinis va descendre de l'arbre pour habiter la strate arbustive. Or ce sont des comparaisons de l'utilisation des micro-habitats et des adaptations morphologiques qui permettent d'identifier le glissement des niches. Ainsi, par exemple, dans les petites Antilles, eh bien, on sait qu'on ne peut supporter que des espèces de lézards anolis de tailles différentes. Et l'importance relative du déplacement des caractères en fonction de la taille a été examinée et débattue pour déterminer le succès d'une invasion grâce à l'exploitation de micro-niches au sein du même genre d'anolis. Mais bien que le déplacement de caractères a d'abord été discuté donc dans le contexte d'espèces très concurrentes, les données sur d'autres espèces, maintenant les oiseaux, les salamandres, les insectes et même les mammifères, indiquent que les interactions entre des espèces éloignées peuvent entraîner des déplacements de caractères.
Una gracia pa' comer y trabajar.
C'était Sinpan, une terre sans pain, une chanson anarchiste de la guerre d'Espagne. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Une science sans liberté, une émission pour une science critique qui vient nourrir toutes ces petites cellules grises. Alors Thierry, nous avons vu comment les espèces devaient modifier leur attrait sexuel pour se reproduire lorsqu'elles sont confrontées à des espèces compétitives. En faisant cela, elles se distinguent alors de leur propre espèce avec qui elles ne peuvent plus se reproduire puisque le déplacement de caractère change leur trait sexuel. La solution écologique du déplacement de caractère favorise ainsi la cohabitation de toutes les espèces entre elles.
Et oui, s'il y en a presque toutes. Le déplacement de caractère constitue avant tout une solution pour cohabiter librement. Les espèces se spécialisent face à une autre espèce. Et donc du coup, évidemment, ça échappe à l'exclusion compétitive darwinienne. Mais le déplacement de caractère peut parfois avoir des effets négatifs sur la population d'une espèce. Étant donné que les espèces seront moins susceptibles de se reproduire ensemble, et par conséquent, le nombre d'individus présents dans l'espèce peut rapidement diminuer en conséquence directe du déplacement de caractère. Cela peut entraver la reproduction ou même conduire à une augmentation de la consanguinité chez certaines espèces. Et cette consanguinité va entraîner davantage de défauts, de malformations. Dans le cas d'une interaction complètement compétitive, elle pourrait même conduire à l'extinction complète de l'espèce, puisque le déplacement des caractères peut empêcher une espèce de se reproduire avec succès dans son environnement naturel. Alors, des études, par exemple, sur des populations de salamandres du genre Plétodon ont démontré un déplacement de caractère dû à des interférences comportementales agressives entre plutôt qu'à une exploitation des milieux. C'est-à-dire que le déplacement de caractère morphologique entre les deux espèces est dû à une interaction agressive entre elles plutôt que l'exploitation de ressources alimentaires différentes. Mais on peut affirmer que bien qu'il n'ait pas encore fait l'objet d'études assez approfondies et qu'il ne soit pas entièrement compris, le déplacement de caractère demeure un facteur important pour l'évolution biologique. C'est même un des processus clés pour comprendre l'écologie évolutive.
À chaque fois, le déplacement de caractère joue sur les traits sexuels. Mais qu'est-ce qui initie au départ une telle différenciation ?
Alors, pour le comprendre, il faut à chaque fois établir le scénario historique des événements qui séparent irrémédiablement l'histoire de vie de deux groupes qui vivent au sein de la même espèce, qui sont de la même espèce. À chaque fois, il faut que soit associé un caractère particulier et un trait reproducteur héréditaire. Et là, le glissement de caractère va devenir héréditaire et ça va devenir un processus évolutif. Ainsi, les chrysopes vont changer de couleur, changer d'habitat, mais elles vont aussi modifier leur champ de cours pour réduire leur séduction aux seuls chrysopes de leur propre groupe, au détriment des chrysopes de leur propre espèce. Ce qui entraîne la formation d'une espèce nouvelle à partir de ce groupe différent. Mais l'un des éléments initiaux qui va faire émerger cette différenciation sous l'effet de la seule présence d'une autre espèce, c'est en général ce qu'on nomme le polymorphisme des ressources.
Plus précisément, le polymorphisme veut dire que les ressources sont donc très différentes que celles à laquelle l'espèce se référait avant.
Oui, quand l'espèce cohabite avec une autre espèce, la différence des ressources peut jouer un grand rôle. Alors, on va prendre un exemple avec des poissons pour que tout ça soit un tout petit peu plus clair. Par exemple, l'omble chevalier, Salvinus alpinus. C'est un poisson magnifique de la famille des salmonidés qui vit dans les grands lacs glaciaires. Dans ces lacs, il n'existe que des petites proies ou des grandes proies. Du coup, les ombles prédateurs qui consomment soit des grandes proies qui vont apprendre à traquer, ou soit des petites larves d'insectes minuscules. Leur bouche et leur physique vont changer en formant deux variétés distinctes et séparées de l'omble. Confrontée à des proies clairement dissemblables, l'une des formes exploite les plus grandes des proies, l'autre forme se nourrit des plus petites. L'absence de proies de taille intermédiaire va conduire à la formation de petits ombles chevaliers spécialisés dans les petites proies et de grands ombles chevaliers s'attaquant à des grosses proies. Pas d'intermédiaire. Le contraste des ressources, le polymorphisme des ressources, va donc conduire à une différenciation des niches écologiques. Le facteur qui a déclenché le déplacement de caractère est donc l'obligation de choisir parmi les deux tailles de proies disponibles, le polymorphisme des ressources. Ça ne conduit pas nécessairement à la formation de deux espèces, mais la divergence de l'exploitation des ressources va quand même générer une différence de taille des poissons. Après, il va falloir qu'un autre facteur intervienne pour provoquer la spéciation disruptive, c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose touche leur reproduction pour faire la formation d'une nouvelle espèce.
Mais finalement, beaucoup plus que les ressources. C'est ce changement de trait de caractère qui va réellement entraîner le changement d'espèce. Faire apparaître une nouvelle espèce différente de celle de l'origine.
Oui, il faut en effet que ces divergences écologiques produisent un isolement reproducteur. Donc il faut qu'un trait reproducteur agisse, c'est-à-dire que les animaux se séparent au point de ne plus se reconnaître comme faisant partie de la même espèce. C'est-à-dire qu'un trait sexuel dans un groupe donné va finir par devenir si différent de celui qui existe d'habitude qu'il ne sera plus reconnu par le nouveau groupe. C'est ce que nous avons vu avec le chant des barbillons, car c'est ce caractère sexuel qui va fixer définitivement la divergence entre les deux groupes. Si le trait morphologique change sans caractère sexuel, il ne va rien se passer, ou du moins, ça se passera comme avec le loup blanc et le loup gris. C'est le caractère sexuel qui va fixer définitivement la divergence entre deux groupes. Si le trait sexuel commence à diverger, là, les individus se séparent entre ceux qui le reconnaissent et ceux qui ne le comprennent plus, comme chez nos chrysopes. Et du coup, deux nouvelles espèces vont diverger de manière inexorable. Alors l'interaction avec une autre espèce va déclencher la formation de deux groupes différents, puis l'apparition d'une espèce nouvelle.
Pour cela, il faut donc que le trait sexuel intervienne pour que les animaux choisissent le partenaire particulier. Il faut changer la séduction des uns vers les autres.
Voilà, on s'aperçoit ici qu'on a bien un trait sexuel, donc c'est un caractère très différent. On est dans une sélection sexuelle, beaucoup plus que dans une sélection naturelle. On n'est même ni dans l'un ni dans l'autre. Et il faut pour cela que le caractère qui plaisait auparavant pour sélectionner des partenaires de son espèce ne fonctionne plus au profit d'un autre caractère sexuel spécialisé dans le nouveau groupe. Il y a donc un glissement du système de reconnaissance de l'espèce. Ce qui va séduire sera maintenant différent, comme on l'a vu par exemple avec la note égrenée par notre barbillon ou avec le chant de cour de la chrysope. Alors si l'espèce est seule, le critère de séduction est le caractère habituel, c'est le caractère sexuel normal, et voilà que confronté à une autre espèce, un groupe de la première espèce va changer de critère de séduction. Elle va modifier son système de reconnaissance. Et en remplaçant ce système de reconnaissance, le nouveau groupe devient indifférent ou inconnu pour sa propre espèce, ce qui entraîne forcément un isolement, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle espèce.
Donc le contraste des ressources est important, mais il est insuffisant pour déclencher la formation d'une nouvelle espèce. Nous ne sommes pas dans de l'adaptation néo-darwinienne.
Et oui, car les règles de la cohabitation entre les espèces et les interactions entre espèces vont réouvrir complètement le débat de la coévolution. Ici, on n'a pas besoin d'une concurrence alimentaire pour s'associer. Un facteur écologique va déterminer la formation d'une nouvelle espèce, mais à condition d'y associer un critère sexuel. On assiste donc à d'abord une spécialisation des phénotypes, une spécialisation de la forme de l'animal, de sa couleur, de sa bouche, puis à une divergence sexuelle. Et c'est cette différence sexuelle qui va fixer le processus. Par exemple, sur l'île d'Okinawa, une espèce d'escargot qui vit sur la moitié est de l'île, tandis qu'une autre espèce va vivre sur la moitié ouest de l'île. Eh bien, les deux populations vont se chevaucher en sympatrie le long d'une ligne sur le milieu de l'île. Mais là, la longueur du pénis de l'espèce diffère de façon très significative. Là où ils se rencontrent en sympatrie, eh bien la longueur du pénis des escargots présente une divergence, ce qui suggère qu'il y a eu un déplacement du caractère. Mais ce déplacement de caractère, c'est du caractère reproducteur.
Mais le déplacement de caractère dépend aussi de la ressemblance initiale des champs de cour, par exemple.
Oui, tout à fait. Quand l'espèce est confrontée à un critère sexuel d'une autre espèce qui peut entraîner la confusion, le déplacement de caractère intervient d'abord pour corriger ce risque. On est donc bien ici dans un mécanisme où les espèces vont se ressembler par le biais de leur trait sexuel, c'est-à-dire par leur trait de reconnaissance spécifique. Ce qui change tout, parce qu'on n'est plus du tout forcément dans des apparentés, on peut avoir des champs très semblables ou des critères sexuels très ressemblants chez des espèces parfois très différentes. Et c'est par contre-coup que ça entraîne la divergence avec l'espèce d'origine. Les différences du système de reconnaissance vont s'aggraver au sein de la même espèce entre ceux qui vivent sans interaction et ceux qui vivent en interaction avec une autre espèce particulière. Il s'agit donc bien d'une stratégie alternative qui va petit à petit l'emporter et qui va conduire à des variations inscrites jusque dans le génome.
Et oui, du coup, le système de reconnaissance sexuelle reste un des éléments les plus importants de l'évolution.
On n'aurait pas dit ça, hein, que le système sexuel était l'un des éléments les plus importants. Eh bien, en écologie évolutive, toujours, on n'est pas dans la concurrence darwinienne intrinsèque qui conduirait à la lutte pour la vie et la disparition d'une espèce. On est bien au contraire dans des choix sexuels. Et ce sont ces choix sexuels qui vont déterminer la suite des événements et, bien entendu, l'inscription dans les communautés et dans les écosystèmes. Le déplacement des caractères est une solution évolutive si le nouveau caractère permet de mieux se reproduire dans un nouvel habitat particulier et si les intermédiaires n'y réussissent pas, car il faut évidemment pas qu'il n'y ait d'hybride. C'est aussi pourquoi les espèces chez lesquelles les femelles se multiplient des partenaires présentent un taux d'évolution bien plus important que les autres. Alors j'ai dit qu'il fallait pas d'hybride, c'est pas tout à fait vrai, parce que même il peut y avoir une spéciation hybride, on avait parlé de ça déjà dans une autre émission. Et pour revenir à ce taux d'évolution plus important chez les femelles qui multiplient les partenaires, eh bien Hornquist par exemple a montré que le taux d'évolution peut être 4 fois plus important chez les insectes qui multiplient les partenaires sexuels par rapport à ceux qui se contentent de séduire un ou deux partenaires sur un système de reconnaissance simple. On s'aperçoit donc que le système sexuel et tous les traits qui touchent à la séduction des individus vont constituer sans doute le facteur le plus important de la diversité biologique et de l'évolution des espèces. Et tout ça, toujours à l'intérieur de l'écologie évolutive.
Thierry, ton équipe de recherche et toi, vous avez aussi étudié ce phénomène chez le triton vulgaire.
Oui, le triton vulgaire, l'Isotriton vulgaris, est différent du triton commun, l'Isotriton. Triton helveticus. Nous avons étudié la morphologie des mâles et des femelles adultes en contrôlant certains facteurs environnementaux comme l'occupation du sol, l'ex-potentialité d'inondation, etc. En utilisant des modèles linéaires, nous avons constaté que les femelles de l'Isotriton helveticus possédaient une queue plus élargie en présence de la seconde espèce. C'est un phénomène qui est assez concordant avec un déplacement de caractère reproducteur. Ce phénomène est peu documenté chez les amphibiens et nos résultats suggèrent que l'accouplement interspécifique engage un coût assez fort pour les tritons mâles. Cette étude souligne aussi que l'évolution des systèmes de reconnaissance sexuelle peut opérer très vite et à très petite échelle.
Il faut donc très peu de choses pour que la reconnaissance sexuelle et la séduction puissent varier au point de diverger.
Les signaux que s'adressent ces animaux ont le potentiel d'agir à la fois comme une attraction sexuelle et comme une sorte de barrière isolante entre les espèces. Ça les empêche de se comprendre et ça empêche en partie le croisement, l'hybridation des populations. Alors ces signaux peuvent donc jouer un rôle dans la reconnaissance des espèces. Comme ces signaux de reconnaissance peuvent subir un déplacement de caractère, eh bien ça peut permettre de se distinguer. Ainsi, en utilisant des algorithmes informatiques de reconnaissance faciale pour modéliser le traitement du visage des primates, des chercheurs ont pu démontrer que les motifs faciaux des guenons chez les cercopithèques ont évolué. La relation entre les apparences des espèces suggère que la distinction visuelle entre les congénères et les autres espèces a été un facteur important pour l'évolution du cercopithèque.
C'est donc à partir de variations assez menues que le déplacement de caractère agirait pour séparer les espèces, en tout cas chez les singes.
Oui, mais beaucoup plus que chez les singes, car l'explication est tout à fait générale. Elle n'est pas spécifique à un type particulier de préférence sexuelle, ni à une espèce, ni à une population. L'idée principale, c'est que le manque d'intérêt à l'égard d'un membre de l'autre sexe peut devenir progressivement une barrière reproductive. Donc un simple changement de caractère peut provoquer un manque d'intérêt envers le sexe opposé et par la suite ça peut entraîner une divergence entre deux populations et ça peut déclencher l'émergence d'une espèce nouvelle parce qu'on touche des caractères reproducteurs. Au contraire, chez des espèces proches et promptes à se reconnaître, le déplacement de caractère peut au contraire déterminer une convergence.
Cela veut dire qu'il existe d'autres facteurs qui peuvent entraîner que des caractères se ressemblent chez deux différentes, du coup. C'est l'inverse. Au lieu de séparer le déplacement de caractère, les rapproche. Mais pourquoi ?
Alors, on peut prendre par exemple les petites grenouilles vertes. Alors, la grenouille verte commune, c'est en fait une grenouille hybride entre l'espèce grenouille rieuse, celle qu'on entend rire dans les marais, et l'espèce petite grenouille verte. Grâce à l'hybridation, la grenouille commune a pu coloniser des marais qui avaient un taux d'oxygène très faible, généralement impossible à survivre pour son parent, la grenouille rieuse. Mais comment faire pour survivre, puisque les hybrides de grenouilles communes ne peuvent pas se reproduire entre eux ? Eh bien en fait, cet hybride a réussi à se reproduire et à développer quand même une descendance. Comment ? Eh bien, il montre un déplacement de caractère qui a eu lieu dans sa manière de chanter. Ces grenouilles communes vont plagier les mâles de l'autre espèce parentale, la petite grenouille verte, en allongeant leurs notes. Les mâles copient le chant des petites grenouilles vertes, séduisant ainsi les femelles de l'autre espèce. Alors grâce à cette convergence de caractères entre le chant des grenouilles communes et les petites grenouilles vertes, La grenouille commune réussit cet exploit de prolonger l'hybridation chez l'ensemble du groupe grenouille verte. Et on découvre aussi qu'il existe de déplacements de caractère très discrets. Bon, par exemple, récemment, en février 2018, une équipe canadienne menée par Germain et Hall a proposé des nouvelles méthodes pour traquer ces phénomènes de déplacements de caractère et les mettre en évidence chez des centaines d'espèces.
C'était Lionel Belasco dans une interprétation de Venezuela.
Voilà, c'est l'association des déplacements reproducteurs et écologiques qui fonde la spéciation, la formation de nouvelles espèces. Et voilà pourquoi nos grenouilles vont présenter de si jolies jambes. C'est ça aussi la leçon essentielle des chrysopes. Quand le choix des ressources s'allie à la préférence des cœurs, le déplacement de caractère constitue l'événement majeur de la formation des espèces. La corrélation n'est pas difficile, puisque l'individu va tendre à préférer ce qui sera efficace. Chrysope verte ou parfum du putois noir, puisque notre femelle de putois noir dans sa forêt trouvera intimement comment obtenir une descendance adaptée à cette contrainte en se laissant séduire par un autre mâle plus sombre. Voilà comment le putois noir devient insensible aux séductions du putois masqué des bocages et des marais. Voilà comment les barbions, à gorge jaune, à gorge blanche, avec un chant, un comportement nouveau, va se fixer dans le génome sous le simple effet de la présence des autres. Le déplacement des caractères révèle que c'est la relation plus ou moins conflictuelle entre les espèces qui entraîne non seulement le changement des gènes, mais aussi de leur expression. Une leçon d'écologie évolutive qui change tout.
Tout à fait, Thierry. Auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission science-libre@gmx.fr. Science Libre au singulier, et vous retrouverez toutes nos émissions sur notre site internet hébergé par Trou Noir, Science en Liberté. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur « Les yeux de la tête ». Liberté chérie.
Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux, la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie.
Lili, ma Lili, Lili, ma Limaté, Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Limaté, Lili, ma Lili, ma liberté chérie.
On avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de poids levé, d'étendard, de preuves ou de loi. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit.
Lili ma Lili, Lili ma Limaté, chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Limaté, Lili, ma Lili, ma liberté chérie.
J'ai traversé tant de pays en criant ton nom,
liberté.
J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom,
liberté.
Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom,
liberté.
Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie.